Avec cette information qui est tombée, 18 000 paquets de cigarettes de contrebande ont été interceptés par les douaniers dans les Pyrénées. Lucien Ariot est avec nous, chef divisionnaire des douanes à Toulouse.
Oui, bonjour Lucien Ariot.
Bonjour.
Bonjour. Alors que s'est-il passé alors précisément? C'est une prise quand même assez exceptionnelle. Mmh. 18 000 paquets, c'est énorme.
Ouais, effectivement. Alors, je pense qu'on est là aussi dans l'actualité. Vous parliez tout à l'heure de confinement.
Ouais.
Je pense qu'on a un peu le syndrome de l'écureuil avec ses noisettes avant l'hiver. Ben là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a des réseaux organisés qui, sans doute, voyant se profiler un nouveau confinement, essayent d'amasser un maximum de tabac qui ensuite sera revendu dans les agglomérations.
Ouais. Et ça passe donc, ça transite par les Pyrénées, quoi. Ça vient d'où?
Ça vient d'Andorre, hein. Ça a été acheté à Andorre.
Ouais.
Et puis ensuite, eh ben, ça passe par la montagne, alors à dos d'homme. C'est-à-dire que ces réseaux utilisent, un peu comme pour les produits stupéfiants, des mules, c'est-à-dire des marcheurs, qui sont rémunérés à peu près à la hauteur de 1 euro la cartouche.
Ouf. Ah ouais.
Ouais, c'est très peu. Et puis voilà, donc des gens pas équipés, voire peu équipés, qui marchent dans la montagne pendant au moins 6 à 8 heures.
Ouais.
Et puis qui ensuite redescendent ce paquet vers les agglomérations.
Oui, c'est ça. Et alors là, ils ont été. Pourquoi ils ont abandonné visiblement leur paquet de cigarettes? C'est parce qu'ils ont été repérés, c'est ça ou pas?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait mis un gros dispositif, puisque bon, on a différents éléments qui nous permettent de réagir à des mouvements de bandes organisées comme ça qu'on voit sur la route ou en montagne. Et donc en fait, leur principale préoccupation, c'est d'acheminer le tabac, mais évidemment, entre le tabac et leur liberté, bien souvent, ils préfèrent abandonner les ballots.
Ouais.
Et puis s'enfuir.
Ouais, et s'enfuir. Ensuite, il y a toujours cette contrebande qui existe, hein, venant effectivement d'Andorre. Alors là, c'est le cas pour le sud de la France. Au nord, ça vient aussi d'autres pays. Et qui ensuite irrigue et s'est revendu par des petits vendeurs à la sauvette du côté, sur le marché toulousain, par exemple. Là, c'était ça la destination?
Ouais, c'est ça. Mais alors après, enfin, je voudrais aussi qu'on casse un petit peu cette image traditionnelle, c'est-à-dire
ouais.
du jeu du contrebandier et du douanier, parce qu'on a affaire aujourd'hui à des réseaux, enfin vraiment très très organisés, des réseaux criminels qui fonctionnent en bande organisée, multicartes, c'est-à-dire qui font non seulement du tabac, mais qui vont aussi bien dans des domaines tels que le proxénétisme, les cambriolages. Enfin voilà. Donc,
c'est-à-dire
l'économie souterraine et qui.
Ouais, ouais. Comment alors le proxénétisme et puis les cambriolages, comment? C'est-à-dire que sont les mêmes personnes
En tout cas, on a affaire, alors peut-être pas ceux qu'on a arrêtés ouais. hier, mais on sait très bien que tous ces réseaux criminels interagissent entre eux, et puis en fait on arrive à des réseaux qui fonctionnent en bande organisée sur les agglomérations pour générer un maximum de revenus.
Oui, c'est ça. Bon, là, donc vous avez récupéré les paquets de cigarettes, en revanche, évidemment, vous n'avez pas pu atteindre l'objectif, hein, qui est d'essayer...
Les arrestations.
D'avoir des arrestations, quoi, et de remonter la filière.
Non, pas cette fois-ci. Mais alors bon, après, ça ne nous empêche pas de se sentir à partir des éléments qu'on a pu ouais. recueillir la nuit passée, ensuite d'aller vers ces têtes de réseau, puisque voilà, on arrive quand même à avoir des éléments pour ensuite travailler dans un deuxième temps avec des services spécialisés.
Oui, c'est ça. Donc, vous avez énormément de douaniers qui sont disséminés sur un peu partout sur toute la frontière et qui font des patrouilles, c'est ça? Parce que l'autre jour, on en parlait, il y a eu cette histoire de génération identitaire là, qui était allée occuper un peu un col dans les Pyrénées. Vous êtes justement un peu sur toute la frontière encore, quoi. Vous menez des patrouilles volantes.
Oui, alors enfin, la douane, en fait, effectivement, ça peut être soit sur des postes fixes, comme justement sur la frontière andorrane,
oui,
et après, un peu partout aujourd'hui, il existe des patrouilles, alors vous appelez ça la volante, on appelle ça des brigades de surveillance intérieure, voilà, qui effectivement organisent des actions de contrôle sur la route, dans les centres de fret express, enfin voilà, sur différentes parties du territoire.
Oui, sur différentes parties du territoire. Et bon, que sont devenus ces paquets de cigarettes? Du coup, Lucien Ariot.
Alors, ils sont saisis dans un premier temps,
ouais.
et puis dans un deuxième temps, voilà, il faut bien aussi mettre ça au clair, ils sont détruits, c'est-à-dire par incinération.
Oui, c'est ça. Ouais, donc, bon, de toute manière, nous, ça ne nous intéresse pas, on ne fume pas avec Cécile. Voilà. Merci beaucoup, hein, en tout cas, bonne continuation dans vos enquêtes, parce qu'il y en a évidemment beaucoup, comme vous le disiez. Lucien Ariot, donc chef divisionnaire des douanes à Toulouse.
Et on apprend qu'on pourrait attraper le Covid même après avoir reçu une première injection de vaccin. On en parle ce matin avec un médecin ORL en Dordogne. C'est Joël Hutz, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Joël Hutte, merci d'être avec nous ce matin. Donc vous exercez à la clinique du parc de Périgueux, hein, c'est ça? Donc vous faites partie des professionnels de santé prioritaires dans l'accès à la vaccination, vous l'avez été. Et racontez-nous, vous avez reçu une première injection et quelques jours plus tard, vous avez quand même ressenti les symptômes du Covid, hein?
Tout à fait. Donc une dizaine de jours après, en fait, une petite rhinite, petite toux, mais sans, voilà, pas très inquiétante. Bien sûr, pas de température puisque on fait un test. Enfin, on est testé tous les jours et tous les patients qui passent à la clinique également. Donc, je suis une profession à risque étant ORL. Donc vacciné et en plus de 60 ans, donc et le matin en me levant, aux surprises, en me douchant, je ne sentais plus le gel douche. Donc petite interrogation, je vais essayer de respirer mon parfum, pas d'odorat non plus, donc ce qu'on appelle une anosmie. Et donc là, gros doute effectivement sur le fait d'avoir été infecté par la Covid.
Oui, c'est ça.
Et donc, c'était dimanche dernier et lundi effectivement à la clinique, je me suis fait tester et puis le résultat est tombé positif.
Oui. Quel constat on peut en tirer? Un premier constat, c'est-à-dire que une première vaccination ne protège pas totalement, quoi. Hein.
Bien sûr. Mais ça, on nous a dit, effectivement, il faut deux vaccins, deux injections,
oui,
pour être protégé. Ça, c'est une première chose. Un intervalle de 3 semaines entre deux injections. Et effectivement, il faut avoir eu le temps que le corps développe les anticorps, développe une immunité. Donc automatiquement, on le sait, et moi je le savais, je n'ai jamais baissé les bras sur les gestes barrières, bien au contraire. Donc que ça soit pour moi ou que ça soit pour mes patients, c'était très important de conserver ces gestes barrières.
Oui.
Donc effectivement, le taux d'immunité n'est pas du tout acquis lors de la première injection. C'est pour ça que j'ai entendu que l'État, effectivement, privilégiait maintenant cette deuxième injection et avait bloqué un certain nombre d'injections prévues. Il faut le comprendre, hein, c'est normal. L'intérêt pour toute la population, c'est que tout le monde soit immunisé et que le fait d'être vacciné, ça permet d'arrêter la circulation du virus, puisque l'hôte, nous-mêmes, les humains, qui seront vaccinés, ne pourront plus héberger de façon aussi confortable le virus.
Oui. Joël Hutte, de manière, il faut le dire aussi, c'est comme la grippe. Quand on se fait vacciner contre la grippe, immédiatement, on ne vient pas immunisé du jour au lendemain, quoi. Il faut un petit peu de temps avant que ça fasse effet. Et là, il faut la deuxième injection. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont vous l'avez attrapé, puisque vous dites que vous faites toujours attention dans les gestes barrières?
Non. Ça le pire. On s'est posé des questions dans tous les sens. Je ne sais pas du tout comment je l'ai attrapé.
Ouais.
C'est ça qui est aussi très perturbant. Hein. Je trouve que on sait que cette vaccination, comme toutes les vaccinations, c'est un bouclier, hein, c'est pas une armure. Donc effectivement, ça nous permet de moins attraper cette infection, ce virus. Comment? Sans doute par une patiente.
Oui.
Mais pourquoi et dans quel par rapport, ça fait quoi, presque un an, depuis février ou mars, depuis l'année dernière, on fait attention, on a des mesures barrières, on nettoie tout, le bureau, les chaises, le matériel, enfin vraiment. Et bon, on ne sait pas. Mon personnel a été testé,
oui.
Le personnel de la clinique au bloc opératoire. Heureusement, personne n'est atteint.
Mais Joël Hutte, est-ce que cette vaccination, quand même, permet de baisser la charge virale?
Oui.
Voilà. Oui.
Alors, c'est sûr, permet de baisser la charge virale, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, je vous l'ai dit, parce que on fabrique des anticorps, et donc, effectivement, notre corps se met à se protéger et donc à empêcher le virus de se multiplier. C'est ça l'intérêt de la vaccination.
Oui, c'est ça. Et là, par exemple, vous avez, bon, c'était il y a une semaine, vous avez toujours des symptômes, mais vous n'avez pas développé de gravité, quoi.
Non. Alors,
de complications.
probablement que la personne qui avec laquelle j'ai été infectée était un hôte sain, donc quelqu'un qui avait la Covid, mais sans aucun symptôme, puisque voilà, moi je ne fais que hôpital, maison, enfin clinique. Donc il y a la seule possibilité de l'avoir attrapé, c'est au sein de mon travail. Ou du milieu familial, mais qui est très restreint chez moi, hein, puisqu'il n'y a que, que mon mari. Donc, voilà, c'est vraiment une interrogation. Et donc, voilà, je tenais à rassurer tout le monde d'abord qu'il fallait se faire vacciner, parce que c'était le seul moyen qui nous permettra de sortir de ce problème-là. De faire toujours très attention, même après une première vaccination. Donc, il ne faut pas attendre, c'est pas le Graal, il ne faut pas attendre tout de cette vaccination et dire aux gens qu'il fallait être patient, parce que le problème, c'est qu'il manque de doses.
Oui.
Et que donc, effectivement, ceux qui ont déjà eu cette première vaccination, il faut la deuxième pour être protégé.
Oui, protégé. Ouais. Merci beaucoup,
└                                └└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└└################└└└└└className
du côté de Périgueux, hein, à la clinique du Parc. Merci d'avoir témoigné ce matin sur Sud Radio.
À suivre l'édito politique de Natacha Polony, hein, la directrice de rédaction de Marianne. Virus et liberté, vous verrez que ça peut aller de pair. On revient dans un instant, 7h22.